Alors, quand nous avons commencé à préparer le baptême d'Ophélia, c'était quand même la troisième préparation. Donc, on s'est fait un petit peu moins de fois, mais ça a été un peu épique d'ailleurs. Et du coup, vous m'avez demandé s'il existait des textes autour de la fratrie. Alors, évidemment, il y en a. Il y a beaucoup de textes qui parlent des frères et sœurs dans la Bible. Mais je dois dire que ce n'est pas des textes les plus tendres. La jalousie est souvent, en général, à l'origine des problèmes et des drames. La première jalousie de l'histoire, vous savez ce que c'est? Je ne sais pas si Clélia, elle se souviendra. Est-ce qu'il y a des enfants ici qui ont un peu des idées ou des adultes? Est-ce que quelqu'un sait quel est le premier problème entre deux frères dans la Bible? Cain et Abel, il y en a qui savent quand même. Ben oui, Cain est jaloux et il va tuer Abel. C'est un peu radical. On a une autre histoire de deux frères, Jacob et Ésaü. Vous vous souvenez du problème qu'il y a eu? Jacob va tromper son frère aîné. Il va lui voler le droit d'aînesse et la bénédiction. Alors, si on regarde du côté des filles, il y a une grande solidarité entre cinq sœurs dans le livre des Noms. C'est une histoire inconnue que moi j'ai découvert l'année dernière. Cinq sœurs, les filles de Sélophéade. Et oui, elles réclament leur part d'héritage et elles l'obtiennent. Bon, la solidarité entre les filles, c'est pas toujours terrible. Donc dans le Nouveau Testament, vous connaissez Marthe et Marie. Voilà, il y a un déséquilibre des tâches qui rend Marthe jalouse de Marie qui est au pied de Jésus. Et Marthe demande à Jésus de faire l'arbitre. Et il y en a bien d'autres. Mais finalement, ces textes nous parlent de notre humanité, de nous-mêmes. Quand on dit qu'il y a beaucoup de violence, notamment dans l'Ancien Testament, il n'y a qu'à regarder autour de nous, peut-être en nous, dans notre monde, pour voir que la Bible n'a rien inventé. Et puis, si nous avons nous-mêmes des frères et sœurs, ben nous savons que le conflit fait partie de notre vie de frères et de sœurs. Des conflits avec des conséquences plus ou moins graves et des conséquences à plus ou moins long terme. Alors, Anne-Laure et Pierre, dans tous ces exemples, vous avez choisi l'histoire de Joseph. Joseph a un père, Jacob, qui a 12 fils. Enfin, il fait partie des 12 fils, Joseph. Donc, il y en a sans doute 10. Le 11e, il est un peu particulier parce que c'est le petit frère de Joseph, de la même mère. Mais en tout cas, ils sont jaloux de Joseph parce que c'est le préféré. Ben oui. Il y en a toujours un préféré. On s'en défend. On essaie qu'il n'y en ait pas. Mais là, il y a un préféré. C'est l'avant-dernier fils de Rachel, la femme préférée de Jacob. Et donc, Joseph est vendu par ses frères comme esclave en Égypte. Et évidemment, quand ils reviennent, ils mentent à leur père en disant qu'il est mort. Alors, je vous recommande de relire cette histoire qui est pleine de rebondissements. Je pense que ça pourrait inspirer des scénarios de BD, de dessins animés, etc., etc. C'est du chapitre 37 au chapitre 50 de la Genèse, quand même. Et puis, vous l'avez choisi parce que c'est une très belle histoire de réconciliation. Il y a eu de la famine dans ces pays-là, et les frères vont être amenés à venir se ravitailler en Égypte parce qu'ils ont entendu dire qu'il y avait des réserves. Et ils découvrent là que Joseph a une place décisive pour organiser les répartitions de nourriture. En fait, celui qu'ils ont voulu éradiquer de leur vie devient celui qui va les sauver. Celui qu'ils détestaient devient celui qu'ils sont presque obligés d'aimer. Alors ça fait réfléchir quand même aux relations, nos relations dans nos familles, avec nos amis et avec ceux qu'on n'a pas envie d'aimer aussi. On en a tous. Est-ce qu'il m'est arrivé de me maîtriser pour ne pas éradiquer celui que j'avais pas envie d'aimer? Est-ce que peut-être que j'ai eu même besoin de lui à un certain moment, que ce soit dans ma vie privée ou dans ma vie professionnelle? Parfois, en effet, la tournure des choses fait qu'on a besoin des personnes que l'on n'aime pas. Et nous pouvons trouver des exemples dans nos vies, dans la marge du monde aussi, je ne citerai personne, et c'est aussi l'histoire du bon samaritain qui est celui qui, par définition, on n'a pas envie d'aimer. En tout cas, dans l'histoire. Dans l'histoire de Joseph, on voit toute l'émotion de Joseph. Il finit par leur tomber dans les bras, les embrasser. Il ne s'empêche pas de manifester son affection. Moi, ça m'a touchée, parce qu'on dit toujours aux hommes qu'il ne faut pas montrer ses émotions. Et là, dans la Bible, il y a 2500 ans, eh bien, un homme a montré son affection à ses autres frères. Et c'est sans doute un des signes qui montre peut-être qu'on a pardonné les signes d'affection. Parce qu'en effet, revenons au pardon, ce pardon antinaturel est pourtant fondamental pour vivre ensemble. Il est au cœur de la proclamation de Jean-Baptiste. Vous savez, Jean-Baptiste, c'est lui qui va baptiser Jésus. Et lui, il dit, le texte nous dit, Jean-Baptiste proclame un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Le pardon est au cœur de la vie de Jésus-Christ. Jésus va aller jusqu'à la mort pour le vivre lui-même. Il dit même sur la croix, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et la résurrection de Jésus est un signe du pardon de Dieu pour l'humanité entière. Mais ce pardon est un mouvement. Le premier pardon vient de Dieu. Tout à l'heure, nous avons remis nos limites, nos erreurs volontaires ou involontaires. Parfois, la lâcheté, ça ne se commande pas. On devient lâche comme ça, et puis ce qui est bien, c'est de s'en rendre compte. Mais dans ce mouvement, je suis appelée à pardonner aussi. C'est ce que nous dirons tout à l'heure dans la prière du Notre Père. Pardonne-nous, car nous aussi, nous pardonnons. C'est la seule chose qui nous est demandée dans la prière du Notre Père. Avant le pain à partager. Devenir chrétien et recevoir le baptême, eh bien, c'est entrer dans ce mouvement, peut-être du regard différent, qui va amener au pardon. En sachant que ça n'est pas facile, en sachant que cela prend du temps, ça n'est pas une injonction, voilà, pardonne, non, ça ne marche pas comme ça. Il faut du temps. Et il faut être doux avec soi-même dans ce temps-là aussi. La société ne nous y encourage pas vraiment. Alors évidemment, cette demande de texte sur la fratrie avec les trois petites filles à la maison, Clélia, Victoria et Ophélia, ça vous arrive de vous disputer? Merci Clélia, au moins c'est honnête, tu vois. Si je posais la question à d'autres frères et sœurs dans l'assemblée, peut-être qu'ils n'auraient pas la même honnêteté. Merci, c'est bien. Eh bien, ça vous arrive alors aussi de vous pardonner, Clélia? Oui, oui, le oui est un peu moins sûr quand même, hein. Mais je pense qu'Anne-Laure et Pierre, vous y remédiez. Comment tu dis? Maman, il dit quoi? Maman aussi, il faut qu'elle pardonne? C'est ça? Ah, c'est ce que vous dites le plus. Ben, c'est bien. Bonne éducation. En tout cas, moi, je peux vous dire un secret, peut-être. C'est que si chacune des personnes du monde entier mettait le pardon au cœur de sa vie, il n'y aurait plus jamais de guerre ni de conflit. C'est à méditer. Et dans ce mouvement difficile, nous ne sommes pas seuls. Nous le redirons à Ophélia tout à l'heure. C'est évidemment ce grand défi. Jésus est vivant à nos côtés. Et non seulement il est vivant, on ne le voit plus, mais il nous aide. Il vient nous guider, il vient nous inspirer. Il vient nous aider à pardonner et parfois, il y a quelque chose qui se fait à l'intérieur de nous, un mûrissement spirituel. Et un jour, eh bien, nous pouvons de nouveau embrasser celui que nous n'avions pas envie d'embrasser. Et je peux entrer dans ce mouvement du pardon à tout âge, Il n'y a pas de limite de péremption du pardon. Jésus nous donne sa force d'amour et nous l'avons entendu dans ce récit de l'accueil de Jésus aux petits-enfants. Les disciples ne voulaient pas que les enfants dérangent le maître. Alors évidemment, on voit, quand il y a des enfants, ça fait un peu du bruit. Mais Jésus veut avoir une relation directe avec les enfants. Il s'indigne, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Alors les disciples ont dû être étonnés parce que la vie d'un enfant ne valait pas grand-chose à cette époque-là. C'était l'époque du droit romain, et dans le droit romain, le père avait droit de vie et de mort sur ses enfants. Ensuite, le texte nous dit qu'il y a des gens qui amènent les enfants. On ne sait pas très bien qui sont ces gens. On ne parle même pas des parents. Peut-être que ce qu'on veut mettre en avant, c'est le lien direct avec Jésus. Et cela fait écho au fait que notre Église baptise pendant un culte. C'est-à-dire que cela signifie que l'enfant entre dans une famille spirituelle, indépendamment de ses attaches familiales. La présence de la marraine et du parrain témoigne de ce décalage de lien, notamment quand les parrains et marraines ne sont pas de la famille. Mais ça n'est pas tout. Les enfants sont comme une parabole pour Jésus. Jésus s'en sert pour faire une comparaison avec nous. Il nous introduit dans nous, les adultes, dans cette histoire en disant « Qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas ». Alors le royaume est une notion qui n'a plus beaucoup de sens pour nous. Au début de son ministère, Jésus proclame que le royaume s'est approché. Comment le comprendre? Eh bien, la personne de Jésus fait advenir un état d'esprit particulier. Il fait advenir un esprit d'amour. Alors, derrière le mot amour, on peut mettre beaucoup de choses. On peut mettre le respect, on peut mettre l'amitié, on peut mettre l'affection. Accueillir le royaume comme un enfant, en tout cas, c'est accueillir la présence de Jésus d'une façon simple. De la même manière que les enfants vont vers lui, Jésus les prend dans les bras, les bénit, pose ses mains sur eux, et les enfants accueillent cela. Les enfants se laissent faire. Ils prennent ce qui est bon, et ce qui vient de Jésus est bon. Et quand on devient adulte, cette attitude de simplicité est bien souvent remise en question. On devient méfiant, vigilant de ne pas se faire avoir, suspicieux de savoir dans quoi on nous embarque. On a eu une belle expérience avec la paroisse il n'y a pas très longtemps d'ouvrir notre temple avec une exposition, puis on essayait d'attirer les gens à l'extérieur et le nombre de fois où on a eu des gens qui voulaient, on avait l'impression que même si on les touchait, on était la peste. En fait, pour beaucoup, on est une secte. Anne-Laure et Pierre, vous nous direz tout à l'heure pourquoi vous voulez faire baptiser Ophélia, comme Clélia et Victoria. Oui, la relation avec Jésus est bonne. Voulons-nous recevoir ce qui est bon ? Voulons-nous être à l'écoute d'une parole qui donne du sens à notre vie? Voulons-nous comprendre que la vie n'est pas toute blanche ou toute noire, mais faite de nuances, comme Jésus essaye de l'apprendre à ses disciples? Oui, soyons simples et confiants, comme peuvent l'être les enfants, pour accueillir cette qualité d'être. Soyons simples et confiants pour dire à Jésus-Christ, pour lui dire combien nous avons du mal à pardonner, à vivre les uns avec les autres. Soyons simples et confiants pour mettre dans notre prière toutes les situations difficiles de conflit. Les réconciliations ne sont-elles pas un événement du royaume de Dieu ? Amen.